Cette émission n'est pas tout à fait terminée et je voudrais consacrer les quelques minutes qui nous restent à présenter un certain nombre d'ouvrages dont j'ai eu la joie d'être destinataire ces derniers temps. Alors, je voudrais vous présenter trois d'entre eux. Il s'agit évidemment de publications récentes. Dans l'ordre de Jérôme Lèbre, L'éloge de l'immobilité chez Desclée de Brouwer, d'Henri Mordac, Henri Général Mordac, Les légendes de la Grande Guerre chez Perrin, et puis de Gaston Bonnet de Carnavet, Dieu écrit droit sur des lignes courbes, chez Isabelle de Bremond-Ars. Alors, de Gaston Bonnet de Carnavet, Dieu écrit droit sur des lignes courbes, un roman intelligent et sensible, à la fois intelligent et sensible, que l'on doit à Isabelle de Bremond-Ars, qui dirige et qui a fondé la maison d'édition éponyme. Alors, Dieu écrit droit sur des lignes courbes, c'est d'ailleurs, nous indique Gaston Bonnet de Carnavet, une phrase que l'on trouve certes sous la plume de Paul Claudel, mais qu'apparemment nous devons à un proverbe portugais que Claudel, diplomate en Brésil, aurait trouvé là-bas. Le roman, en tout cas, constitue d'abord une galerie de portraits de Français du mi-temps du XXe siècle. Alors, ils sont quasi tous militaires, mais l'époque s'y prêtait. On y trouve le jeune homme idéaliste ou au contraire pessimiste et ne sachant quoi faire de son avenir. Dans un lycée où évidemment la discipline est trop stricte et les amitiés trop fortes. On trouve également une figure, celle de Geoffroy de Lehors de Bénifon, qui est une figure de médecin officier, libre penseur et libertin, mais sans doute plus libertin qu'il ne le prétend lui-même. D'autres figures également qui permettent, c'est le deuxième axe à mon avis intéressant dans la lecture de Dieu écrit droit sur des lignes courbes, galerie de portraits qui introduisent un témoignage à la fois militaire, social et peut-être aussi ecclésial. Alors il présente plusieurs facettes, d'abord un anti-gaullisme à tout craint, encore une fois très courant, très répandu dans la classe militaire au mi-temps du XXe siècle et par la suite, un anti-gaullisme qui va s'incarner dans le récit à travers deux personnages, les jumeaux Xavier et Renaud du Gasquet, qui évidemment figurent la division qu'ont connue beaucoup de familles françaises à la faveur ou plutôt à la défaveur de la Seconde Guerre mondiale, de la défaite française et de l'occupation. Le livre évoque donc la résistance et le communisme de manière assez ironique. Il y a une légère ironie qui parcourt tout ce livre. Ce n'est pas son moindre mérite. Et je voudrais citer la phrase suivante tenue par un instituteur socialiste mariant sa fille au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à un aristocrate. « Ma fille a cru me flatter en me faisant étalage de vos nobles ancêtres. Jean III de Saillant avait pris part à la bataille de Poitiers, etc. etc. Vous vous prévaudriez aussi d'un décapité sur le billot et de deux guillotinés. Moi, monsieur, je compte dans ma lignée deux pendus, un roué et un coupé en morceaux. J'ai eu en effet la curiosité de remonter dans mon ascendance en deçà du courageux menuisier qui m'a donné le jour. » Fin de citation. Le livre évoque donc la résistance, le communisme, également l'affaire de Syrie et les combats fratricides entre Français qui s'y sont déroulés afin que la France libre, que la résistance gaulliste puisse prendre possession de ce territoire, demeurer fidèle au maréchal Pétain, aux autorités de Vichy. Le livre évoque également la libération, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et c'est évidemment durant cette guerre d'Algérie que le général de Gaulle s'attire les commentaires les plus réprobateurs de la part du narrateur, qu'il appelle d'ailleurs « Monsieur la France ». Je lis également page 61. Propos du général de Gaulle en Algérie, épisode, il est vrai, fort désobligeant pour les commensaux de ces gargotes, car le chef de l'État devait démentir le lendemain les propos tenus la veille auprès d'un éditoire négligeable, puisqu'il s'agissait du corps dont il était issu, ce qui allait évidemment dans le sens de sa modestie bien connue, et tout le monde l'a compris ainsi. Fin de citation. Voilà pour cet anti-gaullisme. Et puis, troisième aspect de notre lecture, c'est un roman intelligent et sensible, disais-je. C'est même un roman esthétisant. D'abord, certaines descriptions tendent à l'hypotypose, c'est-à-dire qu'elles ont une sinon une sorcellerie évocatoire, comme le disait Rimbaud, du moins un pouvoir réel d'évocation. Et je voudrais lire quelques lignes de la description du souk d'Alep, qui évidemment prend une résonance particulière en ces temps troublés que nous traversons pour le Proche-Orient. Les souks d'Alep sont justement réputés. Je ne pense pas qu'il en existe de plus pittoresque. Toute une cité tentaculaire constituée par des kilomètres de corridors voûtés où jouent les raies de lumière filtrant du treillage des soupiraux. Une délicieuse impression de fraîcheur, des senteurs d'épices et d'aromates vous accueille dès l'entrée. Fin de citation, mais bien évidemment, la description est beaucoup plus longue. Le livre contient également une réflexion antiquisante sur le fatum, sur le destin individuel, et il faut dire que Gaston Bonnet-Carnavet, qui nous devons une biographie de Cicéron, qu'Isabelle de Bremond-Ars publie également en ce moment, était nourri de culture gréco-romaine. À cela, comme à sa lecture des classiques français cette fois, nous devons de longues périodes classiques qui sont très belles et qui compensent le caractère peut-être un peu trop intellectualisant que recouvre parfois le récit. Je ne voudrais pas finir sans évoquer l'hésitation spirituelle finale entre deux personnages, le Bénifond, le libre penseur que j'ai décrit tout à l'heure, que j'ai nommé tout à l'heure, qui connaît une conversion ou une absence de conversion, je vais laisser planer le suspense, et cela sur son lit de mort, et puis vous verrez en lisant chers auditeurs, Dieu écrit droit sur des lignes courbes, ce qu'il adviendra de Thierry, le missionnaire à Madagascar, qui balance entre la poursuite de sa mission au service des plus pauvres et puis l'inclination qu'il ressent pour une femme. La conclusion de ce roman, eh bien, je voudrais la porter sur la France, et c'était la page 71. Peut-être qu'il faut cesser de se gargariser de consensus et présenter la France comme un rassemblement de haine, c'est ce que fait Bonnet de Carnavet, et finalement ce sont aussi les dissensus politiques qui nous rassemblent. Nous nous retrouvons, chers auditeurs, le 3 mai. Merci de nous avoir suivis. Darobour, Serwalilium.